Vous écoutez On lit pour vous.
L'anglais demeure la lingua franca de la science, mais d'autres langues s'imposent. Un texte de Martin Lassalle paru le 14 avril 2026 dans Université de Montréal Nouvelle. Une étude bibliométrique de l'Université de Montréal portant sur 88 millions d'articles scientifiques retrace, à l'échelle mondiale, l'évolution des langues dans la science de 1990 à 2023. En 2023, 85% des quelque 5 millions d'articles scientifiques indexés dans les grandes bases de données mondiales étaient rédigés en anglais. En 1990, cette proportion atteignait 94%, une baisse de 9 points en 30 ans qui, bien que modeste, traduit une transformation du paysage de la communication savante et soulève des questions sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans la production des connaissances dans le monde. C'est l'une des conclusions d'une étude bibliométrique réalisée par Carolina Pradier et Lucia Cespedes à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information, EBSI, de l'Université de Montréal, sous la direction du professeur Vincent Larivière, et dont les résultats sont parus dans le Journal of the Association for Information Science and Technology. L'équipe a analysé près de 88 millions d'articles et d'actes de conférences publiés entre 1990 et 2023, ainsi que plus de 1,48 milliard de liens de citation, rien de moins. Un recul relatif, mais pas absolu. D'emblée, il importe de préciser que l'anglais n'a pas reculé sur le plan du volume. Le nombre d'articles en anglais a plus que quintuplé au cours de la période, passant d'environ 877 000 à près de 5 millions. C'est sa part relative qui s'est érodée à mesure que d'autres communautés scientifiques ont graduellement publié davantage dans leur propre langue. Première auteure de l'article, Carolina Pradier soulève un paradoxe qui est central dans son projet de recherche. Si les publications en anglais représentent 85% du corpus qu'elle a étudié, les références citées par les chercheurs et chercheuses du monde entier pointent vers des documents en anglais dans une proportion de 98,89%. Même dans les pays qui publient le moins en anglais, Indonésie, Brésil, Équateur, Angola, les références anglophones constituent minimalement 92% du total. D'un côté, il y a la langue que les scientifiques utilisent pour écrire leurs articles, et de l'autre, il y a les études sur lesquelles ils s'appuient pour faire avancer la recherche, explique celle qui a terminé son doctorat à l'EBSI. Les chercheuses et chercheurs non anglophones peuvent désormais produire dans leur langue, mais doivent néanmoins dialoguer avec une littérature scientifique massivement rédigée en anglais, dit Carolina Pradier. La percée de l'Indonésien. Le cas mis en lumière par cette étude est celui de l'Indonésien. Pour ainsi dire absent des bases de données bibliométriques au début des années 1990, il représente aujourd'hui 2,69% des publications mondiales, surpassant le français et l'allemand. Selon Carolina Pradier, cette percée n'est pas le fruit du hasard. En 2014, le gouvernement indonésien a imposé par décret que toutes les publications scientifiques universitaires soient rendues librement accessibles en ligne, ce qui a entraîné une adoption massive du logiciel à code ouvert Open Journal Systems, souligne-t-elle. Aussi y voit-elle une illustration de l'influence des politiques scientifiques nationales sur la diversité linguistique. Cette croissance s'est construite pratiquement de zéro, dit Carolina Pradier. En Amérique latine, l'espagnol et le portugais ont progressé de leur côté sur une infrastructure préexistante, Latindex, Cielo, Redalic, qui a permis à la région de bâtir un écosystème de diffusion scientifique relativement autonome. Le français en chute libre. À l'inverse de ces dynamiques ascendantes, le français accuse un recul marqué. Deuxième langue de publication scientifique en 1990, Avec une part de 2,14% des publications indexées, il est tombé à 1,06% en 2023, loin derrière l'Indonésien, le Portugais et l'Espagnol. L'Allemand subit un sort comparable, ayant glissé de 1,38% à 1,23% au cours de la même période. Carolina Pradier propose une explication structurelle. Les principales communautés francophones, Québec et France, sont bien intégrées au circuit scientifique dominant et disposent des ressources pour publier en anglais et y accéder. Les pays plus périphériques, moins exposés à la pression de l'évaluation par facteur d'impact, établissent au contraire des circuits plus indépendants. Les politiques d'évaluation de la recherche ont une influence déterminante, assure-t-elle. Au Québec, on mise sur le facteur d'impact, ce qui encourage la publication en anglais, tandis qu'en Amérique latine, on accorde davantage de valeur aux articles dans la langue nationale. Néanmoins, il existe un champ d'exception pour le français. Les revues françaises en sciences humaines et sociales, dont les articles citent des documents en anglais dans moins de la moitié des cas, comme une sorte d'espace de résistance que Carolina Pradier attribue à la nature localisée des objets de recherche et à l'existence de circuits francophones mieux organisés dans ces disciplines. Des angles morts aux conséquences réelles. Au-delà des statistiques, les résultats de l'étude indiquent que la domination de l'anglais n'est pas un phénomène neutre. Pour les chercheurs et les chercheuses non anglophones, elle se traduit par des coûts concrets, dont le temps supplémentaire consacré à la rédaction, le taux de rejet plus élevé et une anxiété accrue. Ces désavantages peuvent mener à ce que les auteurs de l'étude appellent un biais de survie. Seuls ceux et celles qui maîtrisent suffisamment l'anglais parviendraient à s'imposer dans une carrière de recherche internationale. Plus largement, cette domination entraîne une perte épistémique. Des pans entiers de la production scientifique mondiale, rédigés dans des langues peu valorisées, demeurent invisibles pour la communauté internationale, déplore Carolina Pradier. Publier en anglais seulement nuit à la science parce qu'il subsiste des angles morts. Devant ces constats, l'équipe de recherche formule deux recommandations à l'intention des décideurs. L'adoption de politiques d'accès ouvert et une reconfiguration des systèmes d'évaluation de la recherche, qui reposent à l'heure actuelle trop exclusivement sur le nombre de citations. Si la politique se focalise là-dessus, on va continuer à encourager l'anglais, conclut Carolina Pradier. L'évaluation devrait aussi tenir compte de la qualité et de la pertinence locale. C'était « L'anglais demeure la lingua franca de la science, mais d'autres langues s'imposent », un texte de Martin Lassalle paru le 14 avril 2026 dans Université de Montréal Nouvelle.
Le corbeau n'a pas une cervelle d'oiseau, un texte de la rédaction, paru le 25 janvier 2021 dans Québec Science. Reconnaître des visages, faire des calculs, résoudre des énigmes, il n'y a pas à dire, les capacités cognitives des corbeaux et des autres corvidés, corneilles, geais, pies, étonnent toujours un peu plus les chercheurs. Mais une récente expérience vient de démontrer que les corbeaux sont conscients qu'ils existent et qu'ils pensent, tout comme nous. Deux corbeaux, nommés Ozzy et Glenn, ont été les sujets d'une expérience dont les résultats ont été publiés à la fin septembre 2020 par une équipe allemande. Ils ont été entraînés à appuyer sur une cible bleue ou rouge pour signaler s'ils avaient vu ou non une faible lueur apparaître. Mais à chaque fois, ils devaient attendre de connaître la règle. La cible bleue pouvait signifier « je l'ai vu » et la rouge « je ne l'ai pas vu » ou l'inverse. Plusieurs secondes séparaient le flash ou son absence et la divulgation de la règle. En réussissant le test, ils ont montré le niveau de pensée et de conscience dont ils sont capables. Les corbeaux peuvent réfléchir à leur propre pensée. Dans le test, ils devaient retenir l'information « j'ai vu le flash ou pas » jusqu'à ce qu'ils découvrent la règle à appliquer. Ils devaient donc réfléchir à ce qu'ils venaient de voir. En même temps que les corbeaux réalisaient ces tests, les chercheurs ont pu observer, grâce à des électrodes, l'activité dans leur cerveau. Ils ont constaté que même si le cerveau de ces oiseaux a une architecture assez différente de celle des cerveaux de mammifères, ils ont développé des capacités cognitives aussi élevées que celles de certains singes et d'autres mammifères. Une zone de leur cerveau appelée pallium contiendrait d'ailleurs une plus grande concentration de neurones que le cerveau des grands singes. Les corvidés ne sont pas des têtes de linotte. C'était « Le corbeau n'a pas une cervelle d'oiseau », un texte de la rédaction paru le 25 janvier 2021 dans Québec Science.
Le dernier match à domicile des Expos de Montréal, un texte de Michel Defoy, paru le vendredi 27 septembre 2024 dans BANQ. L'équipe de baseball chérie des Québécois migrait aux États-Unis en 2004. Retour sur ces dernières manches disputées à domicile, relatées par des journaux de l'époque. Adieu Montréal. Le 29 septembre 2004, les Expos de Montréal reçoivent les Marlins de la Floride au Stade olympique. Ils disputent leur dernier match dans le grand bol dessiné par l'architecte Roger Taillibert pour les Jeux olympiques de 1976. Les autorités du baseball majeur confirment l'annonce selon laquelle nos amours, comme on les surnomme affectueusement, déménagent à Washington. Une page de l'histoire sportive montréalaise se tourne. Pour ceux qui s'intéressent au pointage, la partie se termine 9-1 en faveur des visiteurs. Dans les journaux québécois, le lendemain. À la une de La Presse, le jeudi 30 septembre, la triste nouvelle partage l'espace avec les tribulations de la commission Gomery et un sondage sur la popularité du politicien Jean Charest. C'en est fait des expos, relate Alexandre Pratt. Le journaliste rapporte les propos de plusieurs amateurs déçus et ou nostalgiques et décrit l'ambiance de la soirée, plutôt festive malgré tout. Toujours en une, Yves Boisvert signe le texte « Désolé de gâcher les funérailles ». Le journaliste dit avoir mis le doigt sur la véritable raison du départ des expos. Ce n'est pas la maladie économique du baseball. Ce n'est pas l'incompétence des administrations successives depuis 10 ans. C'est la faute aux séparatistes, écrit-il, non sans une touche d'ironie. En page 11, dans sa chronique « La vie, la ville », Rima El-Khoury raconte « Il était une fois ». Le témoignage du super partisan Robbie Hart, cinéaste et frère de Corey, le chanteur, qui demeurait expositif malgré les circonstances et continuait à espérer que son club adoré ne déménage pas. À cela, la presse ajoutait un cahier spécial dans lequel on pouvait lire, entre autres, un billet de son journaliste vedette, Régent Tremblay, « Le stade des cœurs brisés ». La manchette en couverture du Devoir le 30 septembre 2004. « Jour triste pour Montréal. Bonne journée pour le baseball », reprend les mots du président des expos, Tony Tavares. La photo qui accompagne l'article donne à penser le contraire. Une bonne nouvelle malgré tout. Youpi survivra, rapporte Le Soleil en page 3 de son cahier sport. Cela dit, la populaire mascotte n'a pas poursuivi sa carrière à Washington. Elle a plutôt troqué le baseball pour le hockey et porte aujourd'hui encore le chandail du Canadien de Montréal. Dans Le Quotidien, le 30 septembre, Claude Raymond ne cache pas sa tristesse. L'ex-joueur, analyste et entraîneur des Expos confie en entrevue « Maintenant que nous sommes devant le fait accompli, je suis ébranlé. Un sentiment partagé par des milliers de partisans des amours, jeunes et moins jeunes. Reviendront, reviendront pas. 20 ans plus tard, certains amateurs rêvent toujours d'un retour des expos à Montréal. D'autres n'y croient plus. Quoi qu'il en soit, les souvenirs demeurent. En témoigne cette galerie de photos tirées de nos collections. C'était « Le dernier match à domicile des expos de Montréal », un texte de Michel Defoy, paru le vendredi 27 septembre 2024 dans BANQ.
La gueule de bois de l'intelligence artificielle. Un texte de Jean-François Ouellette, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse. Ford l'a appris à ses dépens. Après avoir misé sur des systèmes automatisés pour repérer les défauts de conception, l'entreprise a rappelé 350 ingénieurs d'expérience en 3 ans pour corriger des problèmes que ces systèmes n'avaient jamais détectés. Une facture de plusieurs centaines de millions en garantie et en rappel évité, selon son PDG Jim Farley. Même scénario à la Commonwealth Bank of Australia, où un robot vocal censé remplacer une quarantaine d'agents du service à la clientèle s'est plutôt effondré sous le volume d'appels. La banque a rappelé son monde et reconnu ne pas avoir mesuré toutes les conséquences de sa décision. Chez IBM, un système d'IA réglait 94 % des demandes en ressources humaines, mais butait sur les 6 % qui exigeaient un jugement humain, souvent des questions délicates sur le plan éthique. L'entreprise promet maintenant de tripler ses embauches de débutants aux États-Unis. Et puis, il y a Klarna, devenue malgré elle le symbole du mouvement. En 2024, le PDG de l'entreprise suédoise, Sébastien Siemiatkowski, se vantait que son robot conversationnel abattait le travail de 700 agents. Un an plus tard, devant la grogne des clients et une entrée en bourse à défendre, il recommençait à embaucher des humains, admettant que la qualité du service avait chuté. Ce ne sont pas des cas isolés. Une enquête de la firme CareerMinds, menée en février, révèle que les 2/3 des entreprises ayant sabré des postes à cause de l'IA ont depuis recommencé à embaucher, la majorité dans les 6 mois suivant les compressions. Un sondage OrgView va plus loin. Parmi les dirigeants ayant réduit leurs effectifs pour l'IA, 55 % admettent aujourd'hui que c'était une erreur. Gartner, la firme conseil qui a justement inventé le concept de hype cycle pour cartographier l'enthousiasme technologique, prévoit que la moitié des entreprises ayant justifié des licenciements par l'IA devront réembaucher d'ici 2027, souvent pour les mêmes tâches, sous des titres de postes différents. Le creux des désillusions. Pourquoi cette gueule de bois? Le hype cycle de Gartner aide à comprendre. Une technologie prometteuse y traverse 5 phases. Le déclencheur, le pic des attentes exagérées, le creux des désillusions, la pente de l'apprentissage, puis le plateau de productivité. Or, Gartner situe présentement l'IA générative en plein creux, avec une remontée espérée vers 2027, comme par hasard, la même échéance que celle prévue pour la vague de réembauche. La théorie de la diffusion des innovations, popularisée par le sociologue Everett Rogers, complète le portrait. Une technologie se propage d'abord chez une poignée d'adopteurs précoces prêts à tolérer les ratés, avant d'atteindre une majorité qui exige, elle, une fiabilité quasi parfaite. Entre les deux se trouve ce que le théoricien Jeffrey Moore appelait le gouffre. Or, bien des directions ont agi comme si l'IA générative avait déjà franchi ce gouffre pour des tâches entières, alors qu'elle patinait encore au stade expérimental. Ajoutez l'IA blanchiment, un terme évoqué récemment dans ses pages pour désigner ces compressions attribuées à l'IA, mais motivées surtout par la dette ou la pression des actionnaires, parce que ça sonne mieux qu'un aveu de difficulté, et le tableau se complique encore. Le Québec, lui, n'a pas encore vécu son épisode Klarna. Seulement 12,7 % des entreprises québécoises disaient utiliser l'IA en 2025 et la Banque du Canada ne constate à ce jour aucune vague de licenciements généralisés qui y soit attribuable. dans des cabinets d'avocats montréalais, comme dans une firme d'architecture, Atelier Labri, notait récemment le magazine L'Actualité, le message est semblable. On embauche pour intégrer l'IA, pas pour la remplacer, en partie parce que les outils génériques restent mal adaptés au droit civil québécois ou à la précision qu'exige un plan de construction. Cela dit, le chômage chez les 15-24 ans tournait autour de 9 % au Québec en avril, bien au-dessus des 6,2 % enregistrés dans l'ensemble de la population. L'Institut du Québec le dit avec prudence, impossible pour l'instant d'en isoler la cause précise entre l'IA, les tensions commerciales avec les États-Unis et le ralentissement démographique lié à l'immigration. Québec a tout de même lancé une subvention salariale pour faciliter l'embauche des nouveaux diplômés, un pari qu'il vaudra la peine de suivre. Ce que ça change concrètement? Si vous dirigez une PME, méfiez-vous du réflexe de sabrer d'abord et de comprendre ensuite. Les organisations qui s'en tirent bien traitent l'IA comme un outil qui rend un employé plus productif, pas comme un remplacement instantané. Si vous êtes salarié, le remplacement massif des travailleurs par l'IA, annoncé en grande pompe, ne s'est pas concrétisé comme promis. Mais rester les bras croisés n'est pas une option non plus, puisque les entreprises qui réembauchent aujourd'hui chercheront des gens capables de travailler avec l'IA, pas malgré elle. Le creux des désillusions n'annonce pas la fin de l'histoire de l'IA. C'est simplement le moment où la facture arrive. C'était « La gueule de bois de l'intelligence artificielle », un texte de Jean-François Ouellette, paru le 23 juillet 2026 dans La Presse.
Quel est l'impact environnemental d'un retour au travail en présentiel? Un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir. Pendant la pandémie, plusieurs entreprises et instances gouvernementales ont adopté le télétravail. Or, depuis quelques mois, plusieurs organisations font marche arrière, notamment le gouvernement fédéral qui impose désormais à ses fonctionnaires 4 jours par semaine obligatoires au bureau. Qu'est-ce que cela implique au-delà de la seule consommation de carburant? Pour évaluer l'empreinte du travail en présentiel, les chercheurs comparent généralement celui-ci à son option de remplacement, le télétravail. Toutefois, cette comparaison est plus complexe qu'on pourrait le croire, prévient d'emblée Samuel Leduc-Frenette, doctorant en sciences de la Terre à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Une chose qui est certaine, c'est que s'il y a une science qui n'est pas exacte, c'est bien celle de l'empreinte carbone du télétravail et celle du travail en présentiel. Plus d'essence, en apparence. À première vue, le retour au bureau semble néfaste pour l'environnement. L'utilisation quotidienne de l'auto, c'est un événement très important dans l'empreinte d'un ménage québécois. Et 70 % des personnes utilisent leur auto pour se rendre au travail, souligne Cécile Bull, qui est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'ESG UQAM et co-titulaire de la chaire internationale sur le cycle de vie du Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services. Une étude de Statistique Canada publiée en 2021 abonde dans le même sens. Une transition vers une pleine capacité de télétravail réduirait les émissions annuelles de gaz à effet de serre liées au transport d'environ 9,5 mégatonnes d'équivalent CO2, soit 12,1% des émissions attribuables au transport des ménages canadiens. Mais ce calcul ne tient compte que du navettage, soit les allers-retours entre la maison et le bureau. Samuel Leduc-Frenette invite à regarder plus loin. Le télétravail s'accompagne d'effets rebonds. Les télétravailleurs sont plus nombreux à s'installer loin des centres urbains, voire à aller travailler au chalet. Établis dans des régions isolées, ils combinent difficilement leurs trajets et multiplient les déplacements pour leurs activités personnelles. Une étude publiée dans la revue Energy and Buildings en 2020 indique que les déplacements personnels des personnes en télétravail sont plus nombreux que ceux des travailleurs en présentiel qui effectuent davantage leurs déplacements dans le contexte de leur trajet vers le bureau. Paradoxe supplémentaire, les ménages en télétravail possèdent généralement plus de voitures et y ont un meilleur accès que ceux qui travaillent en personne. Quand on fait un bilan complet, c'est là que c'est le plus mitigé. C'est à peu près neutre, résume Samuel Le Duc Frenette, qui explique que la diminution du navettage est compensée par l'augmentation des autres déplacements. Revenir dans des bureaux restés allumés. Côté bâtiment, le portrait n'est pas plus simple. On imagine que le télétravail réduit la consommation énergétique des bureaux, mais tout dépend des politiques de l'entreprise. Nuance, le doctorant. Si les gens sont chez eux, est-ce que le bureau est éclairé, chauffé et climatisé autant? Est-ce que l'espace est réduit? Est-ce qu'on sous-loue des parties? Si l'aménagement reste inchangé, ce qui est fréquent, on ne fait que dédoubler la consommation d'énergie et le retour en présentiel n'y change alors pas grand-chose. D'autant que les télétravailleurs tendent à habiter de plus grandes demeures que les travailleurs de bureau, ce qui alourdit leur empreinte résidentielle, rappelle M. Le Duc Frenette. Habillement et repas, deux faux coupables. On pourrait aussi croire que le retour en présentiel alourdit notre empreinte carbone par l'achat de vêtements, de bureaux ou par une fréquentation plus grande des établissements de restauration rapide. Or, ces facteurs pèsent peu dans la balance, précise Cécile Bull. Si je prends l'empreinte d'une personne moyenne de 40 ans, la catégorie incluant les vêtements représente 0,62 tonnes de CO2 équivalent par personne par an. Le transport, lui, est à 4,02 tonnes et le logement à 3,14, remarque-t-elle. Autrement dit, la garde-robe pèse 6 fois moins que la voiture. Même constat pour les emballages de la restauration rapide. Souvent, on met beaucoup d'accent sur la question des déchets parce que c'est ce qu'on a sous les yeux, note la chercheuse. Mais dans les faits, leur poids dans l'empreinte carbone reste marginal. Le verdict. Alors, un retour au bureau est-il une catastrophe environnementale? Pas vraiment, conclut Samuel Le Duc Frenette. Dans une étude publiée dans la revue Le Climatoscope, dont il est l'auteur principal, son équipe a calculé l'empreinte carbone complète du télétravail comparativement au travail en présentiel auprès de 364 membres de l'INRS. Résultat, la différence entre les deux n'est que de 10%. Grâce au télétravail, l'INRS évite l'émission de 120 tonnes d'équivalent CO2, soit 0,08 tonnes par personne, l'équivalent de 0,88% des 9,1 tonnes émises en moyenne par chaque Québécois en 2022. Pour Cécile Bull, ça dépend vraiment du profil de chaque personne. Quelqu'un qui est en banlieue de Montréal et qui fait une heure de voiture tous les matins pour aller travailler au centre-ville, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui prend le métro quelques stations pour se rendre au travail. C'était « Quel est l'impact environnemental d'un retour au travail en présentiel ?» un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir.